Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la charge mentale. Est-ce que vous connaissez l'expression française « courir après le temps » ? C'est une expression que l'on utilise pour décrire une situation dans laquelle on a beaucoup de choses à faire mais où on manque de temps. Aujourd'hui, on dit souvent que la vie s'accélère. En fait, ce n'est pas véritablement que la vie s'accélère, mais c'est plutôt qu'on cherche à faire de plus en plus de choses. Comme de véritables super-héroïnes et super-héros, on cherche souvent à développer une activité professionnelle tout en passant du temps de qualité avec sa famille et ses amis, sans oublier de prendre du temps pour nos passions et loisirs. Et si après tout ça, il nous reste du temps, il y a des milliers d'heures de séries et de films à regarder sur les plateformes de streaming. Rien que de parler de tout ça, ça me donne le tournis. Tenir un rythme de vie aussi intense est souvent difficile lorsqu'on est célibataire ou en couple. Mais est-ce que vous pouvez imaginer faire la même chose en ayant des enfants? Cela devient véritablement un exploit. Nos enfants font souvent notre fierté, mais s'occuper d'eux peut vite être fatigant. En effet, chaque jour, il peut arriver quelque chose. Une maladie, un événement oublié à l'école, l'obligation d'aller faire du shopping parce que leurs vêtements sont trop petits. La liste des tâches à effectuer peut s'allonger à l'infini. Dans cette situation, notre esprit est obligé de s'adapter et de s'organiser pour ne rien oublier. Il faut penser à tout et tout le temps. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Pendant très longtemps, en France, l'éducation et le bien-être des enfants étaient la responsabilité des femmes. Mais comme dans de nombreux pays du monde, les modèles familiaux ont changé. Et aujourd'hui, les femmes travaillent autant ou plus que les hommes. Pourtant, les obligations familiales des femmes n'ont pas encore évolué dans toutes les familles et leur charge mentale est souvent déséquilibrée par rapport à celle des hommes. Pour comprendre ce que représente la charge mentale d'une femme d'aujourd'hui, qui a des ambitions à la fois professionnelles et familiales, j'ai discuté avec mon amie Audrey. Elle vit au Luxembourg et a deux magnifiques petits garçons qui lui demandent toute son attention. Dans la conversation d'aujourd'hui, Audrey va nous raconter comment elle aborde la question de la charge mentale avec son mari et nous présentera quelques solutions pour rééquilibrer les choses. Vous allez maintenant entendre cette conversation et on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Enfin, si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet d'Expatlang dans la section podcast. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis ? Dis-moi Audrey, j'ai lu un article récemment sur la charge mentale et notamment la charge mentale des femmes. Est-ce que toi tu te sens concernée par ce sujet ?
Bien plus que concernée.
Qu'est-ce que tu entends toi par charge mentale déjà ?
Charge mentale, c'est une sorte de to-do list que tu as dans la tête qui ne finit pas.
D'accord.
Que tu dois rayer, barrer et réécrire. Quand on est célibataire, on va dire que oui, on a une charge mentale, on s'occupe de soi, de ses papiers, de sa maison, de ses charges, son loyer, son travail, etc. Quand on se met en couple, déjà la charge mentale augmente, mais alors... Quand on a des enfants, là, la charge mentale, elle explose. Mmh. Elle explose. Par exemple, est-ce qu'il reste encore à manger dans le frigo ? Mmh. Quand est-ce que je vais aller faire les courses ? Demain, c'est la journée pull de Noël à l'école. Mmh. Faut pas que j'oublie de leur mettre le pull de Noël.
Et puis d'acheter le pull de Noël si on n'en a pas.
Il faut donner leur combinaison d'hiver parce que pour aller jouer à la neige, quand on a un enfant, ça va. Quand on a deux... Bah, il va falloir voir si la taille correspond, le truc, le machin, etc. Pas oublier les bottes, de marquer les affaires, préparer les affaires du lendemain. Est-ce qu'il s'est brossé les dents, pas brossé les dents? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il a pris son cachet? S'il est malade?
Effectivement, quand est-ce c'est qu'il a une pris... liste qui s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais. Mmh, mmh.
Cette charge mentale, quand on est deux, quand on se met en couple, par exemple, est-ce qu'elle est redistribuée? Elle augmente, mais j'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là.
Normalement, elle devrait être redistribuée, mais il est vrai que on ne réfléchit pas de la même manière. Et puis en plus de ça, le fait que les choses soient imprévisibles avec des enfants nous rajoute des tâches supplémentaires sur la liste. Mmh. Donc par exemple tout bête, mais il faut penser au rappel des vaccins des enfants, prendre rendez-vous chez le pédiatre parce que c'est le rendez-vous obligatoire. Ah, il a fait pipi au lit, il va falloir que je lave aussi tous les draps. Voir s'il reste une paire de draps propres, c'est un challenge de tous les jours. Mais si en plus on n'anticipe pas les problèmes ou les choses, bah, on se retrouve encore plus submergé. Mais effectivement, je pense que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes priorités ni les mêmes anticipations. Voilà.
Est-ce que tu penses que c'est lié effectivement au genre ou est-ce qu'il y a une question de personnalité aussi derrière ?
Il y a une question de personnalité, il y a une question d'éducation. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend tous compte qu'il va falloir élever aussi nos garçons différemment. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est bête, mais on ne leur donne pas de poupée aux garçons quand ils sont petits. Ou alors quand on leur donne une poupée, on leur dit... Ah bah il va pas jouer à la poupée, c'est un garçon.
Il y a encore un regard de la société très fort sur ce que doit être un homme, ce que doit être une femme.
Exactement, et en fait qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, inconsciemment, élever un garçon et élever une fille, on le fait de manière différente.
Une fille, même si on voudrait le faire sur un pied d'égalité, on a toujours ces biais.
C'est ancré.
D'accord.
Je trouve, quand on regarde autour de nous, c'est ancré dans les gens, dans leur façon d'être et d'agir. C'est-à-dire qu'un garçon, on ne va pas forcément lui dire quelque chose genre « débarrasse, vide le lave-vaisselle, range ton linge, plie te... » Bref, on ne va pas lui faire les mêmes choses. En fait, quand il va le faire, on va lui dire « ah, bravo !»
Alors qu'une fille, on n'aurait pas le même commentaire.
Voilà, on n'aurait pas le même commentaire, ce serait limite normal. Du coup, je pense que c'est cette normalité qu'il faut qu'on change. Et qu'il faut qu'on adapte notre éducation à nos enfants. Mais ça, c'est à nous de le faire.
De changer le point de vue. Oui, tout à fait.
Mais c'est compliqué.
Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui de cette question de charge mentale ? Pourquoi est-ce que la génération de mes parents, par exemple, qui sont nés dans les années 50, n'avait pas véritablement conscientisé ou même émis les critiques face à ce problème de la charge mentale ?
Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement plus émancipées. Dès 1950, elles ont été un peu plus émancipées. Mais je pense qu'aujourd'hui, elles sont tellement émancipées qu'aujourd'hui, elles ont un avis. Elles parlent, les choses sont dites, on ne rend plus la maternité comme quelque chose d'extraordinairement beau. Aujourd'hui, on fait part de nos difficultés, parce qu'il y en avait aussi avant. C'est juste que la femme n'avait pas vraiment son mot à dire. Ou alors que c'était même honteux de le dire, parce qu'on avait la chance de pouvoir avoir une famille, de pouvoir avoir des enfants. Donc, de quoi vas-tu te plaindre ?
Il fallait se réjouir d'avoir une famille.
De quoi vas-tu te plaindre ? Tu as déjà tout ce qu'il te faut, pourquoi vas-tu te plaindre encore ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense que la femme travaille autant que l'homme, voire plus pour certaines. Et que...
C'est un rééquilibrage naturel
Exactement,
des choses.
Exactement.
C'est des questions culturelles qui sont en train d'être remises en question.
Exactement.
Est-ce que tu penses que cette analyse sociologique de la charge mentale, c'est une analyse féminine ?
Non, je pense pas. Je pense que maintenant, certains hommes aussi prennent conscience qu'on travaille aussi, quoi. On a des obligations, des responsabilités, des business pour certaines qui sont entrepreneuses. Enfin, comme tout le monde. Et je pense que les hommes commencent à vraiment conscientiser la chose et se dire qu'effectivement, c'est pas possible. Et en plus de ça, je pense qu'aussi les hommes d'aujourd'hui ont un peu évolué et sont un peu plus paternels, plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants, plus présents, jouent avec leurs enfants, prennent du temps avec leurs enfants, ce qui était pas vraiment
le cas
à l'époque. Nous,
d'un autre côté, pour avoir discuté avec des personnes de génération avant moi, le fait de jouer avec les enfants n'était pas forcément ancré dans toutes les familles. Je sais que dans certaines familles, les enfants jouaient entre eux,
mais pas avec les parents.
Voilà, les parents s'occupaient de la vie quotidienne, peut-être qu'ils cuisinaient avec les parents, ils faisaient le ménage, ils allaient se promener, mais je connais beaucoup de personnes dont les parents ne jouaient pas avec les enfants.
C'est vrai, mais beaucoup. Et moi, si je réfléchis, J'ai pas vraiment de souvenirs de jeux avec mes parents, en fait. Et je pense que c'est primordial dans l'éducation d'un enfant de pouvoir, en fait, être proche d'un adulte, de pouvoir en fait passer un moment aussi autre qu'une relation vraiment parent-enfant, d'avoir ce moment de plaisir.
En fait, si je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que ce soit à travers le jeu ou à travers les activités quotidiennes, le plus important, c'est de passer du temps avec les enfants, c'est ça ?
Exactement.
De passer du temps de qualité.
Exact, du temps de qualité, exactement. Mmh. Aujourd'hui, on a la chance aussi de pouvoir voyager comme on veut, pas cher, comparé à avant.
Au passé, bien sûr.
Voilà, de leur faire découvrir plein de cultures, plein de choses comme ça. Mais ça aussi, c'est encore une partie de la charge mentale parce qu'on se dit... Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour que ça devienne comme ci, comme ça.
Oui, en fait, la planification du bonheur des enfants ou de leur développement passe aussi par une phase de planification qui s'ajoute à la charge mentale, d'accord ?
Exactement.
Mmh. Avec ton mari, est-ce que vous parlez de ces questions de charge mentale ?
Oh oui. Mmh. On parle, on peut même se disputer par rapport à ces questions de charge mentale parce qu'en fait...
Ma question, c'est sur la charge mentale à proprement parler.
Oui.
Est-ce que vous utilisez ce terme-là ?
Charge mentale. On parle de la charge mentale. On va avoir des conceptions complètement différentes de ce qui est une charge ou pas une charge. Mais oui, nous, je sais qu'on en parle énormément parce que pour moi, il est devenu naturel que ce ne soit pas que moi qui m'occupe des tâches
ménagères,
domestiques, éducatives et autres. Donc c'est vrai que sur ça, on a fait pas mal d'efforts.
Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vous avez atteint un équilibre ?
Non, on n'est pas encore arrivé à l'équilibre, mais on y travaille.
Est-ce que pour toi, ça a été naturel d'en parler ? Ou est-ce que déjà, au moment où tu t'es installé en couple, tu t'es dit, moi, de toute façon, ce sera comme ça ? Ou est-ce que ça a été le résultat de la vie en commun ?
Non, ça a été le résultat de la vie en commun.
Donc, c'est passé par une prise de conscience, c'est ça ?
Oui, c'est passé par une prise de conscience, parce qu'au départ, tu fais les choses de manière un peu naturelle, et tu as envie de faire plaisir à l'autre quand tu te mets en couple, etc. etc. Une fois que tu as des enfants, par exemple... C'est pas que tu n'as plus envie de faire plaisir à l'autre, mais parfois tu n'as plus le temps de faire plaisir à l'autre. Donc il faut t'accommoder et discuter, beaucoup communiquer. Je pense que c'est la clé.
D'accord. Est-ce que, avant qu'on termine, tu as une clé supplémentaire pour que la charge mentale soit équilibrée ?
Bon, après, ça dépend des familles et des gens, bien évidemment. Mais je pense que faire une liste écrite... de matérialiser cette charge mentale, alors là, je pense que la personne peut se rendre compte de l'épuisement psychologique et de devoir à penser à effectuer toutes ces tâches. Il y a tout ça à se rendre compte. Voilà.
Très bien. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives à gérer cette charge mentale ?
Non, clairement pas. Mais par contre, on y travaille fort.
D'accord. Bah, écoute, je reviendrai discuter avec toi et tu me diras où vous en êtes à ce moment-là.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Audrey.
Avec plaisir.
Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, est-ce que vous pensez que la charge mentale est équilibrée dans votre couple ? N'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@expatlang.com pour partager votre opinion sur cette question. Et j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui m'envoyaient des messages d'encouragement pour ce podcast. Je passe beaucoup de temps à préparer ces interviews et les ressources qui accompagnent le podcast, et votre satisfaction est une véritable motivation pour que je continue. Alors, un grand merci à tous. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, je vous invite à le noter sur iTunes et Spotify et à le partager avec vos amis. Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez avec vos amis français. Premièrement, l'adjectif « bête ». L'adjectif « bête » est un adjectif très courant dans la conversation en français. Il a plusieurs significations et nous allons voir comment vous pouvez l'utiliser. Écoutez cette explication d'Audrey pendant la conversation.
Voilà.
Est-ce que tu penses que c'est lié effectivement au genre ou est-ce qu'il y a une question de personnalité aussi derrière ?
Il y a une question de personnalité, il y a une question d'éducation. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend tous compte qu'il va falloir élever aussi nos garçons différemment. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est bête, mais on ne leur donne pas de poupée aux garçons quand mm-hmm. ils sont petits. Ou alors quand on leur donne une poupée, on leur dit « Ah ben, il va pas jouer à la poupée, c'est un garçon. »
Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est bête, mais on ne leur donne pas de poupée aux garçons quand ils sont petits. Vous avez entendu ? Ici, Audrey explique qu'elle trouve étrange qu'on ne donne pas de poupée aux garçons. Pour montrer qu'elle trouve ça étrange, elle utilise l'expression « c'est bête ». Le mot « bête » en français est un synonyme du mot « animal ». Une bête représente n'importe quel animal différent des êtres humains. Avec le temps, ce mot s'est transformé en adjectif et a été utilisé pour représenter quelque chose qui n'a pas d'intelligence. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « tu es bête » ou « ne sois pas bête », c'est une manière plutôt affectueuse de dire « tu es idiot » ou « ne sois pas stupide ». Dans la conversation, Audrey dit « c'est bête, mais on ne leur donne pas de poupée aux garçons quand ils sont petits ». L'expression « c'est bête » a un sens légèrement différent de « c'est stupide ». Dans ce contexte, cela signifie « c'est dommage ». En fait, Audrey dit ici qu'elle aurait aimé qu'on donne des poupées aux garçons pour les habituer à s'occuper des enfants. Vous pouvez donc utiliser cette expression « c'est bête » pour montrer que vous regrettez quelque chose. Par exemple, « je suis désolé, mais je vais devoir annuler notre resto de demain. »« Oh, c'est bête, qu'est-ce qui t'arrive ?»
Voilà.
Est-ce que tu penses que c'est lié effectivement au genre ou est-ce qu'il y a une question de personnalité aussi derrière ?
Il y a une question de personnalité, il y a une question d'éducation. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend tous compte qu'il va falloir élever aussi nos garçons différemment. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est bête, mais on ne leur donne pas de poupée aux garçons quand mm-hmm. ils sont petits. Ou alors quand on leur donne une poupée, on leur dit « Ah ben, il ne va pas jouer à la poupée, c'est un garçon ».
Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation. Cette charge mentale, quand on est deux, quand on se met en couple par exemple, est-ce qu'elle est redistribuée ? Elle augmente, mais j'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là.
Normalement, elle devrait être redistribuée, mais il est vrai qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Et puis en plus de ça, le fait que les choses soient imprévisibles avec des enfants nous rajoute... oui, des tâches supplémentaires sur la liste. Mmh. Donc, par exemple tout bête, mais il faut penser au rappel des vaccins des enfants. Mmh.
Donc, par exemple tout bête, mais il faut penser au rappel des vaccins des enfants. Dans cette phrase, Audrey nous donne quelques exemples des tâches imprévisibles avec les enfants. Elle commence sa liste en disant « exemple tout bête ». Comme je vous l'ai dit, l'adjectif « bête » signifie « sans intelligence ». En suivant cette logique, on peut comprendre pourquoi on peut aussi utiliser « bête » pour désigner quelque chose de facile. Si quelque chose est « tout bête », cela signifie que c'est vraiment très simple ou vraiment pas compliqué. Et un exemple « tout bête » signifie qu'on va présenter un exemple qui ne demande pas beaucoup d'intelligence pour être compris. Donc, un exemple simple. Attention, si vous voulez utiliser l'adjectif « bête » pour dire que quelque chose est simple, n'oubliez pas de mettre le mot « tout » avant. Vous pourrez par exemple dire « Est-ce que tu connais la recette des crêpes ?»« Oui, bien sûr, tu vas voir, c'est tout bête !» Cette charge mentale, quand on est deux, quand on se met en couple par exemple, est-ce qu'elle est redistribuée ? Elle augmente, mais j'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là.
Normalement, elle devrait être redistribuée, mais il est vrai qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Et puis en plus de ça, le fait que les choses soient imprévisibles avec des enfants nous rajoute des tâches supplémentaires sur la liste. Mmh. Donc par exemple tout bête, mais il faut penser au rappel des vaccins des enfants. Mmh.
Voilà, nous en avons terminé avec ces différentes utilisations de l'adjectif « bête ». Et on passe tout de suite à l'expression suivante. Ne pas avoir son mot à dire. Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation d'aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement plus émancipées. Dès 1950, elles ont été un peu plus émancipées. Mais je pense qu'aujourd'hui, elles sont tellement émancipées qu'aujourd'hui, elles ont un avis. Elles parlent, les choses sont dites. On ne rend plus la maternité comme quelque chose d'extraordinairement beau. Aujourd'hui, on fait part de nos difficultés. Parce qu'il y en avait aussi avant. C'est juste que la femme n'avait pas vraiment son mot à dire.
C'est juste que la femme n'avait pas son mot à dire. L'expression « ne pas avoir son mot à dire » signifie qu'une personne n'a pas le droit de donner son opinion ou qu'elle n'a aucune influence sur une décision qui doit être prise. Par exemple, « je suis très fâché contre mon voisin. Il a construit un mur entre sa maison et la mienne et je n'ai pas eu mon mot à dire. Maintenant, je n'ai plus de soleil dans mon jardin. » Dans cette situation, votre voisin a construit ce mur sans vous demander votre opinion ou votre autorisation, et on peut comprendre que vous soyez fâché. On peut aussi utiliser la forme affirmative de cette expression, avoir son mot à dire. On utilise généralement la forme affirmative lorsque l'on veut rappeler à une personne que notre opinion compte. Généralement, la forme affirmative est accompagnée du mot peut-être. Par exemple, Jean-Baptiste, je vais prendre ta voiture demain pour aller au travail. Hé, attends une minute Audrey, j'ai peut-être mon mot à dire, non ? Ici, je rappelle à Audrey qu'elle doit me demander mon avis ou mon autorisation avant d'emprunter ma voiture. Eh, c'est vrai, c'est ma voiture et pas la sienne.
Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement plus émancipées. Dès 1950, elles ont été un peu plus émancipées, mais je pense qu'aujourd'hui, elles sont tellement émancipées qu'aujourd'hui, elles ont un avis. Elles parlent, les choses sont dites, on ne rend plus la maternité comme quelque chose d'extraordinairement beau. Aujourd'hui, on fait part de nos difficultés, parce qu'il y en avait aussi avant. C'est juste que la femme n'avait pas vraiment son mot à dire.
Nous en avons maintenant fini avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Utilisez « que » à l'oral. Si vous avez appris le français dans un cours formel, vous avez certainement appris que lorsque le mot « que » se trouve devant une voyelle, le « e » final disparaît et on le remplace par une apostrophe. Par exemple, « je veux qu'il m'appelle ». C'est ce qu'on appelle l'élision. Cependant, l'élision du mot « que » à l'oral n'est pas toujours respectée. Dans de nombreux cas, le mot « que » est prononcé complètement, même s'il est suivi par un mot commençant par une voyelle. Écoutez par exemple cette phrase d'Audrey.
C'est vrai, mais beaucoup. Et moi, si je réfléchis, j'ai pas vraiment de souvenir de « je » avec mes parents, en fait. Et je pense que c'est primordial dans l'éducation d'un enfant de pouvoir, en fait, être proche d'un adulte, de pouvoir en fait passer un moment aussi autre qu'une relation vraiment parent-enfant.
Vous avez entendu ? Ici, Audrey ne dit pas qu'une relation, mais qu'une relation. Le « e » final du mot « que » est prononcé, même si le mot « une » commence par une voyelle.
C'est vrai, mais beaucoup. Et moi, si je réfléchis, j'ai pas vraiment de souvenir de « je » avec mes parents, en fait. Et je pense que c'est primordial dans l'éducation d'un enfant de pouvoir, en fait, être proche d'un adulte, de pouvoir, en fait, passer un moment aussi autre qu'une relation vraiment parent-enfant.
Écoutez maintenant cette autre phrase que je prononce dans la conversation.
Cette charge mentale, quand on est deux, quand on se met en couple, par exemple, est-ce qu'elle est redistribuée ? Elle augmente, mais j'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là.
Normal.
Vous avez entendu ? J'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là. Ici encore, même si le mot « que » est suivi du mot « on » qui commence par une voyelle, je prononce les deux mots séparément. « Que »« on ». Ce phénomène est assez fréquent dans les conversations et vient probablement du fait que lorsqu'on parle, on choisit les mots que l'on va prononcer au moment où on les prononce. Par conséquent, on prononce le mot « que » entièrement parce qu'on ne sait pas encore qu'on va utiliser un mot qui commence par une voyelle. Cependant, faites bien attention. Si vous préparez un examen ou une certification, pensez bien à faire l'élision du mot « que » lorsqu'il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Sinon, vous risquez d'être pénalisé. Et ça, ce serait vraiment bête.
Cette charge mentale, quand on est deux, quand on se met en couple par exemple, est-ce qu'elle est redistribuée ? Elle augmente, mais j'imagine qu'on est deux quand même pour faire ces choses-là.
Normal.
Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec la charge mentale. Et si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la description phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlang.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce 9e épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French et je n'arrive pas à croire que le temps soit passé si vite. Mais heureusement, malgré tous ces épisodes, ma charge mentale n'est pas encore trop lourde. C'est bête, j'aurais bien aimé partir en vacances la semaine prochaine, mais j'ai encore la prochaine interview à enregistrer, la transcription à écrire, les exercices à préparer, les listes de vocabulaire à créer. Oh là là, ça s'arrête jamais. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources de ce podcast sur le site www.expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.